Quel est le point commun entre Zidane, Cristiano Ronaldo, Riquelme, Thierry Henry, Hristo Stoïkov, Cafu, Beckham? Tous ont participé au mythique tournoi de Toulon. Notre invité est Alain Revello, directeur de ce tournoi appelé aujourd'hui le tournoi Maurice Revello, en honneur à son père, qui l'a fondé en 1967. Alors qui de mieux qu'Alain qui vit au cœur de ce tournoi depuis sa plus tendre enfance pour nous en parler? Il nous en raconte les débuts mais aussi le succès et l'évolution de sa place dans le monde du football. Bref, encore un beau voyage pour cet épisode hors série d'En dehors de ma surface. Bonne écoute! Bonjour Alain Revello, comment vas-tu?
Bonjour, ça va très bien et toi?
Ouais, ça va. Je suis très content d'avoir un peu de temps de discuter avec toi parce qu'on est à quelques jours du début du tournoi international, du festival international Espoir, tournoi Maurice Revello. J'ai bien dit?
C'est ça, tout à fait, tu l'as bien dit, voilà. Tu t'es pas trompé, certain.
Anciennement, tournoi de Toulon, on va y revenir. Voilà. Mais est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter?
Oui, tout à fait, moi je suis Alain Revello, un des deux fils de Maurice Revello, le créateur du tournoi, donc mon frère c'est Philippe. Et mon père a créé ça en 67 à l'époque quand il était secrétaire général de la section amateur du Sporting Club de Toulon. Et donc c'était un tournoi qui était conçu pour remercier un petit peu les clubs étrangers qui avaient invité le Sporting à participer à des tournois, surtout en catégorie junior. Et ils avaient décelé une faille un petit peu, c'est-à-dire que à l'époque quand on était junior, ben on passait en senior de suite et il n'y avait pas de passerelle. C'est-à-dire que le jeune de 19 ans, 18-19 ans, il arrivait dans un monde, je vais pas dire un monde de brut, mais bon, il arrivait dans un monde très expérimenté et pour s'exprimer, c'était très, très difficile. Donc, ils avaient pensé à créer une passerelle, ce qu'on appelait espoir, c'est-à-dire que, voilà, les meilleurs jeunes après passaient dans cette catégorie-là et jouaient entre eux de façon à pouvoir s'exprimer encore et acquérir de l'expérience. Et donc, il a créé le premier festival international Espoir à Toulon, sous l'égide du Sporting Club de Toulon. Et comme vous pouvez bien imaginer, 73, j'avais 11 ans, j'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans. Donc, je suis né dedans, quoi. Voilà, je suis né dans la marmite, un peu comme Obélix. Et puis, j'ai grandi avec le tournoi, j'ai grandi avec le festival. Et ça a fait partie de la vie entière de notre famille. Et donc, voilà, quoi. On vit avec depuis qu'on est né.
Bah ouais, c'est incroyable. Et quel précurseur ton père et ses amis, du coup?
Ouais, c'était des visionnaires, ouais, tout à fait, c'était des visionnaires. Et puis, d'autant plus que comme la catégorie sport n'existait pas encore à l'époque, la FIFA, l'UEFA, etc., ont créé les U21 ensuite, justement. Alors, je ne dis pas que ça a été l'impulsion, mais ils se sont peut-être aperçus qu'il y avait une vide à combler. Et donc, à partir de ce moment-là, ils avaient vu ça avant les grandes instances internationales.
Ouais, ouais. On va parler du tournoi actuel et du passé. On va tout mélanger, parce que de toute façon, tout est un peu mélangé. C'est la famille, hein. Donc,
tout s'imbrique.
Parce que toi, aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de cette édition, on voit que vous avez toujours des sélections de tous les continents. Ou en tout cas, vous essayez à chaque fois. Et justement, vous permettez à des pays de se rencontrer. Et c'est des pays qui jamais ne pourraient se rencontrer s'il n'y avait pas ce style de tournoi.
C'est l'essence même du tournoi. C'est dans l'ADN du tournoi. Si on n'a pas ça, ce n'est pas le bon tournoi. Voilà. Nous, c'est ce qui nous... Alors, bien, il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est que les matchs sont télévisés et qu'aujourd'hui, sans les droits télé, on ne peut pas faire de tournoi, comme on ne peut pas faire de Ligue 1, comme on ne peut pas faire les matchs d'équipe de France qui ne se vendent pas, ça ne se fait pas. Sans l'argent de la télé, plus rien ne se fait, malheureusement, hein, mais c'est comme ça. Mais, et puis, d'un autre côté, tant mieux, parce qu'un tournoi comme un autre, c'est vu dans le monde entier. Mais malgré tout, on est arrivé à faire à comprendre à nos interlocuteurs, c'est-à-dire Pitch, société anglaise qui a acheté des droits jusqu'en 2023, que pour nous, l'essence même, c'était de retrouver des grandes nations comme le Brésil, le Mexique, l'Italie, l'Argentine, la France, l'Angleterre, etc. Mais que cela valait la peine aussi si on retrouvait des nations qu'on va appeler mineures, même si le mot ne me plaît pas, mais plutôt exotiques, etc., mais leur donner aussi à eux l'occasion de découvrir un monde qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Et pour nous, l'essence même, c'est justement avoir une représentativité de tous les continents. Et cette année, il faut le reconnaître, on y reviendra tout à l'heure, mais avoir une seule équipe européenne et 11 équipes de tous les continents, 3 d'Amérique du Sud, 3 d'Afrique, 3 d'Asie et 2 d'Amérique centrale, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, le deuxième paramètre, c'est que on était peut-être limité quand on était à 8 ou à 10. À 8, par rapport au diffuseur, c'est difficile de lui faire comprendre qu'il faut inviter des nations comme cette année les Comores, le Ghana, le Panama ou le Venezuela. Ça va être compliqué. À 12, c'est plus facile. En plus, 12, ça nous permet de retrouver les demi-finales qu'on ne pouvait pas faire à 10. Donc, à 12, on va se retrouver avec 3 groupes de 4. Et si vous avez les têtes de série, le chapeau numéro 1, chapeau numéro 2, chapeau numéro 3, ça vous permet d'avoir un chapeau numéro 4. Vous avez 3 nations qui peuvent intégrer justement ce pool et faire ce que j'appelle moi la beauté et du tournoi. Et le tournoi ne serait pas aussi beau s'il n'était pas comme ça.
Bien sûr. Et il n'y a pas des différences de niveau trop importantes, pas à cet âge-là ?
Il faut simplement que maintenant, à mon sens, si les joueurs progressent sur le terrain, dans le jeu, il faut que ça progresse aussi dans les administrations. Et c'est là où on a peut-être un petit peu plus de difficultés. On le voit, hein. On est à 10 jours, 12 jours du tournoi. On a toujours une difficulté avec les fédérations qui tardent à demander des visas, qui tardent à donner des renseignements, l'heure d'arrivée, etc. Donc, c'est au niveau de l'administratif, mais je pense que le Covid a laissé des traces aussi. Et donc, au niveau de l'administratif, il faut que les fédérations progressent quand même, ouais. À ce niveau-là.
Ouais. Parce que tu disais, là, ça fait 2 ans que vous ne faites pas le tournoi à cause du Covid.
C'est ça, à cause du Covid, on va faire le 48e là, du 29 mai au 12 juin, on aurait dû faire le 50e même. Mais bon, on a réussi à rebondir.
Je voulais te poser cette question, la relation entre le tournoi Maurice Revello et la FIFA. Il n'y a aucun lien, ou parce que c'est toutes des fédérations affiliées à la FIFA?
Oui, c'est que des fédérations affiliées à la FIFA. Nous, on est solidaires aussi du Racing Club de Toulon, c'est notre association support, et qui par rapport à la Fédération française de football. Mais au départ, on avait à une certaine époque, on avait une espèce de partenariat. On avait l'avantage d'avoir des amis à la FIFA, et notamment, je pense, mon père avait des amis, et notamment, je pense, à Michel Zanori-Finel, qui était l'ancien secrétaire général de la FIFA et qui avait pris de passion pour le tournoi. Et donc, il avait réussi à nous offrir un label un peu FIFA. Personnellement, j'ai jamais rien retrouvé dans les papiers. Et en revanche, là, maintenant, ça se concrétise puisque cette année, on va avoir un point très fort avec la FIFA. C'est-à-dire qu'on va organiser du 20 mai au 12 juin un séminaire d'arbitres FIFA et le tournoi masculin, et c'est une première mondiale, le tournoi masculin U21, donc, sera arbitré uniquement par des féminines. Ces féminines qui sont en stage de préparation pour arbitrer et de sélection pour arbitrer la Coupe du Monde de féminines qui aura lieu en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. On aurait dû le faire depuis 2 ans, hein, mais donc, moi, j'ai rencontré, et je la remercie parce que c'est elle qui a été à l'initiative de cette idée. Je remercie Carrie Seitz, l'adjointe de Pierluigi Collina, pour l'arbitrage féminin, et c'est elle qui m'avait demandé de réaliser, de voir si on pouvait réaliser ceci. Et moi, je pars du principe que la femme peut être l'avenir du football, et doit être l'avenir du football. Et donc, à partir de ce moment-là, faire arbitrer un tournoi masculin de ce niveau, uniquement par des femmes, je pense que c'est quelque chose qui peut être avoir de très bonnes retombées positives.
Ah oui, c'est incroyable. Et la FIFA ne vous voit pas comme un concurrent potentiel à des Coupes du Monde ou à des...
Pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire. Non, pas du tout. Non. Ah non, on n'est pas concurrent en plus. Hein. On n'est pas concurrent du tout. Nous, on est là pour permettre aux sélections, et c'est la base, pour permettre aux sélections de se préparer pour des championnats du monde au moins de 20 ans. Moi, je me rappelle même une année, le Brésil, il est venu avec des générations très jeunes. Ils ont fini dernier du tournoi, mais quelques mois plus tard, ils finissaient champion du monde des moins de 17 ans. Ils étaient venus pour se préparer. Et c'est ce qui fait que l'intérêt du tournoi, c'est-à-dire que quand est-ce que le Venezuela va pouvoir rencontrer le Japon ou l'Indonésie va pouvoir rencontrer le Mexique? Il lui faut soit les Jeux Olympiques, soit un championnat du monde. l'Indonésie, par exemple, pourra rencontrer le Mexique l'année prochaine quand ils organiseront le championnat du monde des moins de 20 ans. Mais avant ça, il n'y a pas de possibilité, mis à part des matchs amicaux. Nous, on offre une possibilité, justement, d'organiser des matchs où tous les continents s'affrontent. Et ça, c'est quelque chose en un même lieu. Et ça, c'est quelque chose d'inouï, quoi. Le plus bel exemple, le dernier en date, c'est le Mexique en 2012 qui gagne le tournoi et qui gagne les Jeux Olympiques derrière.
Ils viennent avec leur équipe pour se préparer aux JO.
Ah oui, tout à fait, avec Herrera au milieu de terrain, avec Marco Fabian avant-centre, etc. Et ils gagnent le tournoi, ils gagnent les Jeux Olympiques. Et en 2019, le Brésil vient pour préparer les Jeux Olympiques, gagne le tournoi en battant le Japon en finale. Et d'ailleurs, on retrouve le Japon dans le dernier carré et il remporte les Jeux Olympiques à Tokyo en 2021.
Et toi, tu sais, quand ils viennent, leurs objectifs ?
Oui, on cible pour ça, oui, on cible pour ça. Là, on cible, on a invité l'Indonésie parce que justement, ils organisent le championnat du monde des moins de 20 ans, donc ça leur permet de préparer ça. On cible là, on sait que cette année, là, c'est la génération qui va disputer les Jeux Olympiques en 2024. Voilà. Donc voilà, on cible oui, tous les événements. Ouais.
Et donc pour refaire un petit peu d'histoire, une des premières grandes générations qui est venue dans cette optique-là, c'est l'Argentine avant la Coupe du Monde 78. Je sais que t'as aimé en parler, mais c'est un grand moment pour le tournoi, ça.
C'est le révélateur. C'est ce qui a décidé que le tournoi serait ensuite appelé le laboratoire du football, quoi. Parce que donc en 74, quand mon père et ses amis reprennent le festival, on est encore à 8, on est à 6, mais 3 nations, 4 nations et 4 clubs. C'était une édition un peu unique en son genre, hein, puisque c'est la première fois que le Brésil est venu participer au tournoi. Et ensuite, en 75, donc ils prennent la décision de ne faire que des nations. Et là encore, il y a des visionnaires un petit peu partout dans le monde, et notamment en Argentine, un garçon comme Luis César Menotti, il avait compris l'importance justement de préparer des générations, et surtout celle de 78 qui allait disputer la Coupe du Monde sur ces terres. Et donc, il vient en 75 disputer le tournoi de Toulon, et dans ses bagages, il a des garçons comme Passarella, Gallego, Valdano, Tarantini, et qui vont gagner le tournoi en finale à Mayol contre la France de Maxime Gossis, 1-0, mais enfin, moi j'étais mignon, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui reste dans les annales.
Ah ouais, ça, tu te rappelles, toi, de cette édition, justement ?
Une très très belle édition, très très belle édition, et moi je me rappelle de voir Mayol en folie avec l'équipe de France, et quand on a revu Maxime Bossis après, il est venu quelques années plus tard donner le coup d'envoi d'une finale, pour lui c'était quelque chose qui l'avait énormément marqué, quoi. On en discutait hier, il y a plusieurs grands joueurs qui sont passés par le tournoi, on avait la conférence de presse hier, et Amaïa Brahmi, le responsable de la communication, disait quand il avait fait l'interview de Jean-Pierre Papin se rappelait bien évidemment ce qu'il avait vécu au tournoi, puisqu'en plus il dit le premier but au Stade Vélodrome que j'ai marqué, c'est pour le tournoi. Voilà. Avant de jouer à l'OM, j'ai marqué au Stade Vélodrome à l'occasion d'un match du tournoi.
Et pourquoi tu crois que ce tournoi, il marque tellement les esprits de toutes ces générations, tous ces joueurs qui ont gagné le tournoi de Toulon, que j'ai fait le tournoi de Toulon, et on continue à l'entendre, ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ?
Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est quelque chose qui marque les joueurs, qui marque la jeune génération. Et primo, parce qu'on vient de disputer le tournoi, il n'y a pas de pression, hein. Nous, il n'y a pas la pression. Il y a une pression là, que l'entraîneur va mettre, le sélectionneur va mettre, en disant si on vient, c'est pas pour faire, c'est pour gagner, quoi, je veux dire. Donc, ils vont se la mettre tout seuls. Mais il n'y a pas de pression médiatique, il n'y a pas de pression avec les clubs, il n'y a pas. Voilà. Les coachs savent très bien faire tourner les effectifs. Et puis, les joueurs se jouent libérés. Moi, je le dis toujours, le tournoi, là, en ce moment, c'est 26 matchs. On est à peu près entre 65 et 70 buts au total. Donc, ça fait une moyenne supérieure à 3 buts par match. Donc, ça veut dire que on n'est pas là pour défendre, on n'est pas là pour gagner des points, on n'est pas là pour ne pas être relégué, on ne chasse pas la Coupe d'Europe, on est là pour progresser dans une ambiance conviviale, parce qu'on a réussi à conserver des stades à la taille humaine. Voilà, c'est vrai que ça nous plaît de jouer dans des grands stades, mais parfois on peut pas, malheureusement. Et donc, pendant 15 jours, c'est la fête du football, c'est la fête du football international. Et surtout, nous, on n'est pas là pour mettre la pression aux sélections, on est là pour qu'ils prennent du plaisir et qu'ils prennent du plaisir à travailler ensemble. Voilà. Donc, on les place dans les meilleures conditions pour travailler.
Vous arrivez à rendre quelque chose de très professionnel, mais en même temps, de garder cet esprit festif, en fait.
Familial. On peut parler d'esprit familial.
Voilà. Et comment, c'est quoi, et concrètement, tu fais quoi, vous faites quoi pour garder ça, cet esprit-là?
Non, mais on est plusieurs, on est quelques-uns, on n'est pas énorme, hein, le nombre n'est pas énorme. Hein, je pourrais citer Éric Turquin, Gilbert Baragnol, Armand Fenouillet, Hervé Gilles, on est là depuis plusieurs années, comme mon frère. Et primo, c'est l'humilité, je pense, avant tout. Et puis, secondo, c'est faire coller à des jeunes gens qui viennent vivre, parce que maintenant, comme tu le sais, il y a beaucoup d'écoles, management sportif, etc. Et donc, on accueille beaucoup de stagiaires, que ce soit en communication ou dans l'administratif.
Comme François Lecor qui nous a mis en contact.
Comme François Lecor, voilà, l'incontournable François Lecor qui voyage dans le monde entier grâce au festival. Mais voilà, on arrive à les faire coller à cette ambiance, familiale. Et moi, je vois depuis qu'on les accueille, on n'a plus besoin d'anciens. On a chaque année des nouveaux, et ces nouveaux, même s'ils ne font plus des études, ils appellent dans l'année, ils disent si Alain, si tu as besoin, tu m'appelles, moi je suis là, quoi. Voilà, donc, et tout ça sur la base du bénévolat, quoi.
Et donc, on disait, quand on repart avec l'Argentine 75, on loupe de peut-être 2-3 ans, on loupe Maradona.
On loupe Maradona, ouais, tout à fait. En 75, je pense qu'il était un petit peu trop jeune.
C'est ça, ouais, je pense.
Voilà, mais avant la Coupe du Monde 82, je pense qu'on aurait pu avoir Maradona, mais Menotti n'a pas voulu le veiller. Et donc, il n'a pas envoyé, il a préféré le garder un petit peu au chaud. Et donc, il n'a pas voulu le faire. Voilà, il y a des joueurs comme ça qui nous ont échappé, et notamment deux Argentins, Maradona et Messi. Mais on en a tellement eu d'autres. Voilà, donc mon plus beau souvenir, ça restera quand même 2003. Le match, pour moi, c'est le plus beau match du tournoi de cette année-là, mais j'en ai rarement vu d'aussi beau. C'est Argentine-Portugal au Stade Mayol en 2003. D'un côté, j'ai Javier Mascherano. D'un autre côté, Cristiano Ronaldo. Le Portugal s'impose 3-0. Mais voilà, ça représentait déjà les confrontations Real de Madrid-Barcelone entre Ronaldo et Mascherano.
Ouais, et surtout que Mascherano et Ronaldo aussi, ça se savait déjà que c'était deux joueurs des futurs stars. Parce que Mascherano, il était titulaire à River Plate, je crois, à 16 ans. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il était déjà, c'était déjà juste en sélection.
C'est ça. Et là, on retrouve Mascherano, sélectionneur des 20 ans, qui vient disputer le tournoi.
Ah oui, ah, c'est lui qui... Ok, c'est incroyable.
Ouais, la boucle est bouclée.
Ah, voilà, génial. Génial. Et ouais. Et est-ce qu'il y a eu des joueurs que tu as vu passer dans le tournoi et que sur le moment, tu ne t'es pas rendu compte, et après, quelques années après, tu t'es dit « Ah non, mais lui, il a fait le tournoi et... ».
Dans les jeunes générations, parmi les jeunes générations, oui, il y en a. Mais j'aurais plutôt tendance à me dire... Tiens, celui-là, il a fait un gros tournoi et après, on l'a plus vu.
Ah ouais, voilà.
Ou alors, il n'a pas éclaté, il n'a pas explosé. Mais c'est vrai aussi qu'on a des joueurs où, ça payait pas de mine. Et puis finalement, ils ont fait une super carrière, quoi. Et donc, voilà, c'est... Oui, il y a les deux côtés.
Et tu as eu aussi une fameuse... mais le tournoi a eu la chance aussi d'avoir... C'est Henri Trezeguet, juste avant la Coupe du Monde 98, aussi un an avant.
Ah oui, ben, oui. Cette année-là, c'est l'année de la triplette magique. Quoi.
Avec Anelka.
Ils vont disputer le championnat du monde des moins de 20 ans. Il y a Trezeguet, Anelka, Henri. Le coach, c'est l'Eurovoté Gérard Houllier. Et Gérard Houllier, quand il disputait une compétition, il fallait qu'il la gagne. Quoi, hein. Donc, même s'il était en préparation du championnat du monde des moins de 20 ans. Et donc, il fait tout pour gagner le tournoi de Toulon. Et il le gagne. Et malheureusement, quand il va disputer le championnat du monde des moins de 20 ans, il a des difficultés. Et alors qu'il était immense favori, il gagne pas le championnat du monde. Et on lui reprochera, certains lui reprocheront un petit peu plus tard d'avoir fait trop d'efforts dans le Var et pas assez lors du championnat du monde. Mais bon, après, c'est l'histoire, ça, hein, c'est comme ça. Voilà.
Et est-ce que, quand tu regardes un peu l'évolution du tournoi, tu te rends compte comment on est passé quand même à un stade un peu plus de foot business? Est-ce que tu penses qu'il y a eu une année un peu charnière où tu dis il y a un avant et un après un tel événement ou telle édition?
Ouais, je pense que c'est la fin des années 80, début des années 90. Où, là, ouais, c'est pas le tournoi, hein, c'est l'évolution du football en particulier. Hein, c'est comme ça, quoi. C'est là où on regrette, mais on peut pas faire autrement. Alors nous, on a connu, chaque année, on fait des accréditations pour les scouts des clubs. Alors tant que c'est des scouts, des superviseurs de chaque club européen, voire mondiaux, puisque maintenant ça vient de tous les continents, c'est pas un problème. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal, hein, on a un peu plus de mal avec les agents. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Mais vous savez. En fait, tu sais, moi je me rappelle une année, on a été obligé, personnellement moi, de virer Giroud du vestiaire du Nîmes Olympique. Hein. Il était rentré dans l'équipe, dans le vestiaire de l'équipe de France. Il voulait faire signer un contrat professionnel pour aller à JA à Lilian Compan, et on lui a fait comprendre que c'était pas le moment de faire signer un contrat dans le vestiaire de l'équipe de France. Alors pendant qu'il jouait le tournoi, quoi. Il n'a pas compris, mais bon, on a été obligé de virer du vestiaire.
Mais il a réussi
Ben,
puisqu'il est
il a
revenu.
peut-être pu signer après, mais pas dans le vestiaire.
Ça m'étonne de Giroud, c'est pas son style de rentrer par la fenêtre quand on lui ferme la porte.
Voilà. Et voilà.
Aujourd'hui, comment ça se passe? Parce que les scouts, ils ont des accréditations justement
Oui,
pour
on les
venir.
accrédite en se rendant sur le site du tournoi. Ils peuvent se faire accréditer. Et donc, là, après, à partir de ce moment-là, on leur donne des compétitions d'élite, des équipes, des compétitions, des feuilles de match. Alors, cette année, un truc, quelque chose où on évolue au fur et à mesure, on n'a plus de papier. Ce sera tout, digital. C'est-à-dire qu'avec des QR codes, etc., ils pourront avoir la composition d'équipe et la liste des équipes sur leur téléphone.
Il y a toujours de l'intérêt d'être au stade pour eux, plutôt
Ah oui.
que le
Ah
voir
oui,
à la télé
toujours,
ou
toujours,
de la
toujours.
data. Ouais.
Chaque année, c'est 250 accréditations. Et moi, je vois, hein, depuis, c'est 4 mois maintenant qu'on est tanné par les scouts pour nous dire quand est-ce qu'on a les accréditations, quand est-ce qu'on peut les demander, etc., etc., quoi. Oui, tout à fait, ouais. Et les clubs, moi, je prends l'exemple de Saint-Étienne de Nice, ils envoient 6-7 personnes.
Ah, ok. Parce que quoi, on ressent plus qu'on est dans les tribunes. Il voit qu'il y a des choses qu'il ne voit pas dans la data ou.
Enfin, moi, je pense que la data est incontournable, hein, maintenant, parce que bon, on a pris ce virage-là, etc. Et puis nous, on se félicite de s'être associé avec StatsBomb qui perce au niveau des data. Donc nous, pas de problème. Mais bon, la vérité, elle est quand même sur le terrain. Et puis la réaction d'un joueur, vous la voyez différemment par rapport à son coach, par rapport s'il est remplacé, comment il réagit, s'il est remplaçant, suivant comment il va rentrer, dans quel état d'esprit, etc. Ça, ça se voit pas dans les datas. Hein. Il n'y a pas ce ressenti dans les datas. Et puis, c'est surtout important d'être aussi dans les tribunes pour voir qui il y a,
Ouais.
et qu'est-ce qu'ils regardent, et
Ouais.
qu'est-ce qu'ils observent, et puis ils discutent entre eux, quoi. Voilà. Voilà. C'est. Moi, je dis pas que c'est le grand marché parce que ça me plaît pas, mais voilà, quoi. Et c'est comme ça.
Génial. Je vais juste, j'ai envie de finir par citer quelques noms. Je les ai là devant quand même parce qu'on a tendance à sous-estimer ou à oublier. Mais je vais dire Riquelme, Alan Shearer, Thierry Henry, Trezeguet, Jean-Pierre Papin, Cristiano Ronaldo, Marquinhos, Hristo Stoïkov, Dani Alves, Adriano,
Ouais.
Hugo
Ah, mais
Sanchez,
tout ça,
Ronald
Stoïkov, ça, c'est
Koeman.
une histoire, hein. Stoïkov, c'est une histoire, hein. Stoïkov et Kostadinov, c'est une histoire.
Parce que ça, là, on est sur quelle année ça?
C'est avant l'élimination
Avant
en
93.
93, ouais, c'est les années 89, 90. Et bon, une histoire qui va faire rire encore, hein. Donc, le team manager de la Bulgarie, s'appelait, je le regrette, puisqu'il est décédé pendant les années Covid, Bonchio Todorov, qui était un ami du tournoi. Il était venu avec la Bulgarie pendant plusieurs années. Et à l'époque, c'était le secrétaire général de l'équipe. On appelle ça team manager maintenant. Et donc, il était devenu ensuite le secrétaire général de l'équipe A, quoi. Et mes parents étaient au stade ce soir-là. Étaient invités. Et donc, bon. Vous pouvez vous imaginer la chape de plomb du sabbat sur le Parc des Princes. Et on en a assez parlé. Et donc, mes parents qui étaient invités au buffet aussi. Donc, plus personne ne parlait dans cette grande salle, notamment du côté du staff de l'équipe de France. Et à un moment donné, les portes s'ouvrent et les Bulgares arrivent en masse et à la tête du convoi, Boncho Todorov, et qui aperçoit mon père au fond de la salle et qui se met à crier « Ah, Maurice !» Et ouais, je vous laisse imaginer le froid glacial qui a pu s'abattre du côté de la Fédération Française de Football.
Voilà. C'est la taupe.
Voilà. Voilà, mais c'est aussi ça le tournoi, c'est l'universalité, quoi. C'est-à-dire on fait le tournoi et on est content si l'équipe de France participe. Mais voilà, on fait pas ça pour les, c'est pas que pour l'équipe de France, et on est là pour l'universalité, pour que le monde du football en général soit représenté. Voilà, on va fêter prochainement les 50 ans et j'espère que tout le monde en est conscient.
Mais c'est voilà. Pour ça, et dans l'universalité, il y a aussi, je voulais finir aussi avec ça, on n'en a pas encore parlé, mais il y a le tournoi féminin.
Ouais, c'est une idée qu'on a eue en 2018. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce que, comme je l'ai dit à peine, j'estime que c'est l'égal de l'homme. Hein, et on a pris énormément de plaisir à découvrir en 2018 pendant la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Bretagne, là, moi, j'étais avec mon ami Gilbert Varagnol et on a découvert certaines choses, notamment le Japon. Ça faisait longtemps que je m'étais pas levé du banc pour applaudir un but et les Japonaises nous ont fait craquer, quoi. Hein. Et donc, on a été contents de lancer ça en 2018, avec un tournoi à 4 équipes remporté par les États-Unis. Et puis, ça a pris, la sauce a pris. En 2019, on a eu la chance de pouvoir monter le tournoi à 6 équipes avec, et notamment, avec une expérience unique d'accueillir la Corée du Nord, qui a gagné le tournoi. Voilà. Donc, on a été un petit peu stoppé par le Covid en 2020-2021, mais là, on est reparti sur de bonnes bases. On a 4 équipes, le Mexique, les Pays-Bas, la France et les USA. Voilà, on se bat encore pour en avoir 6 avec, on a invité le Brésil et le Nigeria. Je sais pas si on va y arriver. Il va falloir qu'on prenne une décision très vite, de toute façon, cette semaine. Mais, voilà, ça va être encore un beau tournoi pour préparer les équipes pour le championnat du monde des moins de 20 ans qui aura lieu au Costa Rica au mois d'août.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite?
Une pleine réussite et puis du beau football et de la fête.
Bah, il y aura voilà. Tout ça, j'en suis persuadé. À très bientôt, voilà. Alain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
Merci à toi. Salut. Au revoir.
Merci Alain pour cet échange à quelques jours du début du tournoi. Je te souhaite une très belle 48e édition qui aura lieu du 29 mai au 12 juin et que vous pourrez suivre sur Bein Sport. Notez aussi que les matchs de l'équipe de France féminine du tournoi Sud Ladies Cup seront quant à eux diffusés sur la chaîne L'Équipe. À bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode hors série d'En dehors de ma surface. J'adorerais avoir vos retours sur l'épisode et le podcast en général. N'hésite pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées pour qu'on puisse échanger. Mon adresse est toujours hugosanudo@hotmail.com.